L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes le mercredi 12 mai et je suis accompagnée d'Emma. Salut, comment ça va aujourd'hui?
Salut Claire, salut tout le monde. Eh bien écoute, ça va malgré le temps qui n'est pas super.
Oui, on s'est bien pris la pluie ce matin, c'était très agréable.
Oui, c'est sûr.
Mais bon, heureusement on a une émission qui va nous remonter le moral parce qu'aujourd'hui on va parler de la grève qui se déroule depuis lundi pour les services de réanimation dans toute la France et de la manifestation qui a eu lieu hier à Laval. On continuera avec l'interview de Melike Olgun, une jeune avocate turque installée à Laval. Et on terminera par notre chronique du mercredi du FC Que Choisir.
Mais tout de suite Claire, un point sur l'actualité, il vous reste 2 jours pour vous inscrire aux élections.
Effectivement, Emma clôture le 14 mai des listes électorales pour les régionales et départementales qui se dérouleront les 20 et 27 juin. Pour vous inscrire, c'est dans votre mairie et n'oubliez pas, de vous munir d'un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et d'un CERFA spécifique que vous trouverez sur le site internet du gouvernement ou directement en mairie.
Malgré la crise sanitaire, le pays de Cran en manque de main-d'œuvre.
D'après une enquête menée par le pays de Cran, 133 postes sont à pourvoir sur le territoire d'ici mars 2022, dont 68 immédiatement. Dans les secteurs concernés, les banques et assurances, le bâtiment, le commerce, l'industrie ou la santé, sans oublier l'intérim qui pourrait correspondre à 240 postes supplémentaires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre CV par mail à economie-emploi@paysdecran.fr.
9 étudiants lavallois sur 10 satisfaits de la qualité de leur formation.
Résultat d'une grande enquête proposée aux étudiants par Laval Agglomération. Si les étudiants sont majoritairement satisfaits de leur formation, plus de la moitié des sondés jugent l'attractivité de Laval et la vie étudiante comme étant peu ou pas du tout satisfaisant. Quant à la Covid-19, 87% d'entre eux estiment qu'elle a eu un impact négatif sur leurs études.
L'événement InnovDia est confirmé.
Le rendez-vous des entreprises sera le jeudi 3 juin de 14h à 18h30 à l'Hippodrome de Laval. Avec l'accord de la préfecture de Mayenne, l'événement est maintenu en présentiel. Au programme des ateliers, des conférences avec des chefs d'entreprise sur leurs dernières innovations. Pour s'y rendre, il faut s'inscrire et c'est jusqu'à demain. Vous pouvez retrouver le lien sur le site innovdia.fr.
On éteint les lumières à Cran.
Le régime de l'éclairage public a été modifié. Dorénavant, les axes principaux comme la route de Laval, Nantes, Rennes seront éclairés de façon permanente mais atténués lorsque c'est possible. Et tous les autres axes secondaires seront éteints de 23h à 6h du matin, un moyen de diminuer la facture et la pollution lumineuse.
Et Claire, hier après-midi, une trentaine de manifestants rassemblés devant le centre hospitalier de Laval.
Depuis lundi, une grande partie du service réanimation est en grève et grâce à l'appel de l'intersyndicale, plus de 110 services de réanimation en France suivent le mouvement. Marie-Hélène et Coralie sont infirmières en réanimation et nous expliquent ce qu'elles attendent de cette grève.
De faire reconnaître toutes les choses spécifiques qu'on fait en réanimation qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'est pas formé. On a à peu près entre 3 et 5 semaines de formation sur le terrain pour être
performant. Il faut savoir qu'on est quand même performant dans un service de réanimation en moyenne environ au bout de 1 an. C'est long et c'est pour ça aujourd'hui on met en avant les connaissances et les compétences qui sont spécifiques à ce service.
Avec la crise Covid, ça a vraiment révélé parce qu'on a augmenté notre capacité en lit sur le service de réanimation. Donc il a fallu former à tour de bras beaucoup de soignants, beaucoup de collègues de d'autres sites. Donc pour la sécurité des patients, c'est vrai qu'on a beaucoup formé et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas transposable au pied levé et qu'il y avait besoin effectivement d'un temps posé et que notre formation de base d'infirmière et d'aide-soignant ne nous permet pas d'être tout de suite opérationnel en réanimation. Donc il y a des compétences qui existent dans d'autres services de l'hôpital qui sont reconnues et nous pas encore. On est passé de 8 lits à 16 lits, même plus au plus fort de la crise. On a eu le personnel, on l'a formé pour être en sécurité auprès des patients.
Et on a eu beaucoup de renforts en fait de Château-Gontier, de Mayenne, des infirmiers anesthésistes de l'hôpital, mais c'est vraiment pendant la crise Covid qu'ils viennent nous aider et c'est pas quelque chose qui va perdurer puisque c'était vraiment du renfort et c'est pas des postes.
On a un rendez-vous fin du mois avec la direction sur l'hôpital, mais il y aura aussi d'autres rendez-vous au niveau national.
Oui, c'est surtout au niveau du gouvernement qu'on attend beaucoup et pas beaucoup au niveau de la direction locale. C'est vraiment au niveau national que ça se joue et que les revendications sont là. C'est vraiment national.
Mais effectivement, localement, on se rend compte par rapport à d'autres centres hospitaliers de la région, même comme on a beaucoup augmenté notre capacité en lit, on a aussi fait beaucoup d'efforts. Tous les soignants ont fait beaucoup d'efforts et c'est vrai qu'un geste de reconnaissance serait forcément le bienvenu. Ça peut passer par une revalorisation salariale, une prime, forcément. Il y a ça qui est en jeu. Après, ça peut être aussi du temps dédié pour bien former les nouveaux arrivants.
Et puis avoir un service de remplacement, avoir des personnes formées qui puissent venir au pied levé, que ça soit pour des crises de pandémie ou pour des arrêts, avoir un petit peu plus de personnes formées au service.
Il n'est pas dit, mais après un an de crise, on a eu des collègues touchés par le Covid, mais il n'est pas dit qu'à l'issue de cette fatigue, malgré tout, les efforts qu'on a été amenés à donner, eh bien, qu'il puisse y avoir des arrêts qui, effectivement, j'en sais rien, je ne le souhaite pas, mais qui puissent se multiplier. Et c'est vrai qu'on n'a encore pas de soupape humaine pour pallier à ça. Bien qu'on ait formé beaucoup de gens, ces personnes-là sont reparties dans leur site, ce qui est normal. Ils avaient un travail, il y a eu des blocs qui ont été fermés, tout a réouvert. On a été beaucoup applaudis par le public, les gens en général, et c'est vrai que, alors sans rechercher une médaille spécialement, voilà, on attend aussi une reconnaissance de nos supérieurs, nos ministères, etc. On est des infirmiers, des aides-soignants, soutenus par des médecins, soutenus par des internes, soutenus par notre cadre, mais je pense qu'on a à peu près le même discours.
Les grévistes attendent des décisions nationales et gouvernementales fortes, surtout après cette période sanitaire difficile.
On découvre le portrait de Melike, avocate turque, juste après Lipka et son titre punchy, Monkeys.
Sticks.
C'était Lipka avec Monkeys sur notre radio et surtout dans votre émission L'Agité du local.
Avocate en Turquie, elle a fait le choix d'un service civique à Laval. C'est le parcours étonnant de Melike Olgun. La jeune femme est volontaire à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne depuis novembre dernier avec une mission de lutte contre les discriminations. Ayant déjà passé un an en France, elle pouvait donc être accueillie en service civique et ne regrette absolument pas son choix. On écoute son témoignage au micro de Marie.
Je m'appelle Melike Olgun, je viens de Turquie, j'ai 26 ans. Je suis service civique de la Ligue de l'enseignement contre les discriminations depuis novembre, voilà. Pour la mission, j'ai intégré sur le collectif Une Sonne aux Différences. J'ai développé une plateforme numérique, le site internet UND. J'ai participé aussi aux activités contre les discriminations pendant tout le mars. Il y a une semaine d'éducation contre les discriminations, donc on a organisé quelques activités. Mais à cause de la situation sanitaire, ce n'était pas beaucoup. Mais je vais à l'école pour parler de discrimination, pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les situations de discrimination, comment on peut trouver des solutions ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut développer, etc.
Discrimination, c'est très large finalement. De quelle situation est-ce que vous pouvez parler dans les écoles?
Je pose quelques questions. Par exemple, premièrement, j'ai expliqué tous les critères de discrimination. Et après ça, j'ai expliqué quelques situations et je pose que c'est quels critères de discrimination. On réfléchit ensemble, on parle et j'ai montré quelques vidéos sur la discrimination et on parle donc pour réaliser que on pense que quelque chose est assez normal dans la société, mais c'est pas normal. C'est discrimination. Donc, et pour me présenter, j'ai oublié autre chose. Depuis novembre, je suis à Laval, mais l'année dernière, j'étais dans le sud, à côté de Toulouse. J'étais volontaire de Erasmus European Corps pendant une année. C'était un projet d'éducation populaire. C'est être animatrice dans l'été, dans les campings pour les jeunes, les adolescents. Et normalement, en Turquie, je suis avocate. C'est autre chose que j'ai oublié. Mais j'ai quitté mon travail pour une nouvelle expérience, pour autre culture, pour apprendre le français. Grâce au service civique, je suis devenue lauréate de l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, c'est si vous êtes service civique ou volontaire de Erasmus, vous pouvez être lauréate après passer dossier, après entretien, etc. Il accompagne pendant un mois pour votre carrière après service civique, par exemple, pour trouver un travail ou intégrer une formation ou créer une association ou créer votre travail. Je suis devenue lauréate et maintenant je vais postuler à l'université pour, je pense, Sciences Po ou quelques autres universités avec l'Institut de l'engagement pour l'année prochaine. Je vais travailler dans le domaine de diplomatie, donc je vais être attachée au droit international. Je suis étrangère et je suis toute seule ici. Je ne connais pas bien toutes les démarches, tous les systèmes d'éducation, de santé, etc. Donc, je connais qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne et il est toujours là-bas si j'ai problème pour trouver, par exemple, logement, ou bourse, ou intégrer formation, ou autre chose. Après formation pour trouver travail, elle est là-bas et elle est prête pour m'aider. Donc c'est bien pour moi, ça me fait confiance. Confiance que je ne suis pas seule en France.
Votre parcours, il est quand même assez étonnant de se dire, vous avez été donc diplômée, vous étiez avocate en Turquie. Pourquoi faire ce choix alors déjà d'être venue en France une fois et même d'être revenue cette année donc pour le service civique? Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Bien sûr pour la nouvelle expérience, etc. Mais autre chose que j'ai réalisé comme ces trois essentielles choses, liberté, fraternité, égalité en France. Donc je me sens que c'est vrai et je me sens que c'est très bien pour une citoyenne. Donc, parce qu'en Turquie, même si il est laïque, il y a beaucoup de problèmes de droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc J'ai réalisé que je ne veux pas vivre cette paix qui ne me permet pas de donner parole contre la discrimination, contre les inégalités, etc. Donc, c'est pourquoi je choisis France pour habiter.
Depuis quasiment 6 mois maintenant, même plus, que vous êtes ici en France, vous la sentez, cette différence de climat, on va dire ?
Ouais, il y a plusieurs associations, ce qui m'a frappé. Premièrement, ils travaillent avec le gouvernement, c'est bien parce que le gouvernement finance toutes les associations pour développer le lien entre toutes les sociétés ou sensibiliser toutes les sociétés. Donc c'est très bien parce qu'en Turquie même, il y a quelques associations, ils ont seuls pour trouver finances pour s'ouvrir leur activité, etc. C'est même étonné, mais j'aime bien ce système. Il y a France et le territoire de le droit de l'homme et je veux habiter ici.
Ici, en tout cas, l'expérience en France, forcément, elle vous plaît, puisque vous vous projetez un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des choses ici, à votre arrivée à Laval, qui vous ont surpris, alors que ce soit dans la mission de service civique ou même en dehors ?
Apéro. Oui, j'adore ça parce que je ne comprends pas. Le travail est moins important que le plaisir. Et ça développe être dynamique dans le travail et être dynamique parmi les collègues, etc. Donc j'adore ça. Parce qu'en tout cas, on travaille toujours, mais il n'y a pas bonheur, il n'y a pas bonne atmosphère. Autre chose que pour service civique, mais pour étrangère, je peux dire, parfois j'oubliais que tous les magasins sont fermés le dimanche. Une fois, je me préparais pour aller au magasin, faire le course, et j'ai réalisé que c'était fermé. Tu es étrangère, tu dois apprendre. Par contre, c'est bien pour un journal consacré à la famille.
Là, on l'entend en tout cas, vous parlez très bien français. C'était pas forcément le cas à votre arrivée, en tout cas en novembre.
Je parle pas très bien français. L'année dernière, je parle juste l'anglais, c'est à côté de Toulouse. Et ici, c'est une passionnée pour moi d'apprendre le français parce que quand je parle l'anglais, je me sens que je suis étrangère ici. Mais ici, quand je parle le français, je comprends toute l'actualité, je comprends tous les blagues entre les gens, etc. J'ai appris tout seul, mais depuis novembre, j'ai étudié chez moi pour apprendre le français. J'avance, mais il y a toujours beaucoup de choses que je dois apprendre. Il y a toujours beaucoup de choses pour moi, et premièrement, accent.
Votre service civique, il s'arrête à quand ?
Il s'arrête septembre. Et après septembre, j'espère que je vais continuer mon formation master. Mais je vais continuer à être volontaire de collectif ici parce que je vais être en contact avec tous les collectifs. Comme j'ai déjà dit, ils sont très gentils, généreux. Et quelqu'un m'a aidé pour apprendre le français. Quelques associations, c'était très chouette. Par exemple, j'ai écrit quelque chose, ils corrigeaient. Quand j'avais question pour la grammaire, il a répondu. Donc, ils sont très gentils pour moi. Et je vais rester en contact avec toutes les associations. Je vais continuer à travailler dans le vol ici.
Qu'est-ce que ça vous apporte, en tout cas, cette mission en service civique par rapport à un autre parcours en France ou ailleurs où vous ne l'auriez pas fait ?
J'ai appris le système de l'association parce que jusqu'à ici, je travaille toujours dans l'entreprise ou dans l'État, etc. Donc, je ne savais pas comment fonctionne l'association. Ici, il m'a permis d'observer le système d'association. Comment il peut être important pour la société. Et autre chose, service civique, c'est comme c'est bénévole. C'est-à-dire que je fais quelque chose pour quelqu'un, mais bénévolement, et c'est sans très différent. C'est pas comme salarié. C'est juste, tu veux toucher quelqu'un pour changer quelque chose, mais c'était ton métier, c'était ton profession, mais c'est autre esprit que j'ai appris. Parce que l'année dernière, quand j'étais volontariat, c'était pas même. C'était comme, ils cherchent quelqu'un qui travaille dur, bon marché. C'était comme ça. Donc, j'ai pensé que volontariat dans le monde, c'est comme ça, mais ici, service civique, grâce à la Ligue, grâce au collectif UND. Ils cherchent même quelqu'un qui est volontaire d'aider quelqu'un, aider société, aider immigrants, aider toute la diversité, etc. Mon mentalité a changé après service civique. Le collectif, en effet, également respect de société, laïcité, intégration, toutes les diversités, etc. Donc, c'est synonyme pour moi, pour le collectif. Et je suis ravie de faire partie du collectif. Pour service civique, l'Institut, par exemple, maintenant, je m'occupe toujours de l'Institut et j'étais peur que... la Ligue peut dire quelque chose à tout travail pour service civique, toujours, etc. Mais j'ai réalisé qu'il dit non, ton projet c'est important. Après service civique, tu dois faire quelque chose, bien sûr. Donc prends ton temps pour faire quelque chose. C'est bien, c'est toujours bien, je ne sais pas, mais ça dépend de la situation, bien sûr, parce que j'ai deux expériences, être volontaire dans deux différentes associations, et c'était totalement opposite, c'était totalement différent, donc ça dépend de les gens, dépend de l'association, dépend de la mentalité aussi.
Un joli parcours qui ne va pas s'arrêter là, mais Liké poursuit son service civique jusqu'en septembre avant de tenter les concours de Sciences Po et de s'installer un peu plus en France.
Et nous, on met nos paires de lunettes pour écouter Pair of Glasses du groupe Baum.
Colors, he said.
C'était Baum avec Pair of Glasses. Vous êtes bien dans l'AJT du local.
Le mercredi, tous les 15 jours, c'est la chronique assurée par Jean-Michel Guindo du FC Que Choisir Mayenne. Son joie du jour, parler des crédits dont il faut parfois se méfier.
Auditeurs consommateurs, bonjour. Le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe. Aujourd'hui, nous allons vous parler du crédit. Attention au taux réel. Quand on fait un achat, il faut le payer. Et donc, disposer de l'argent nécessaire. Et il y a ceux qui sont fourmis, d'autres qui sont cigales. Et pour ceux qui sont cigales, les banques proposent des formes de crédit, et comme leur imagination est sans limite, les propositions sont aussi sans limite. Dans le monde d'avant Internet, on prenait rendez-vous avec son conseiller, on étudiait les conditions et l'on signait avec un stylo. Si le banquier était d'accord pour vous prêter ce dont vous aviez besoin, évidemment. Et c'est encore ce que l'on fait aujourd'hui, en général, pour acheter ou rénover son logement. Vous n'avez pas l'argent sur votre compte ? Pas de problème, elle vous autorise un découvert. Mais ce n'est pas gratuit. Ça peut même coûter très cher. La lettre recommandée pouvant valoir jusqu'à 30 euros. Et puis, les banques ont confié une partie de ce travail au magasin. Plus besoin d'aller à la banque. Vous achetez, le magasin fait le contrat de prêt et vous partez sans avoir rien déboursé. Ce sera pour plus tard. Et en plus, vous avez fait des économies, car ce prêt est lié la plupart du temps à une carte de fidélité et de réduction, et même à une réserve d'argent. La prochaine fois, il ne sera même plus nécessaire de faire un dossier. Il suffira de prendre dans la réserve d'argent, qui se renouvelle au fur et à mesure des prélèvements pour remboursement. Car il faut bien rembourser, et payer des frais, et payer des intérêts. Tiens, au fait, combien j'ai payé au total ? Et malheureusement, la plupart des possesseurs de ces cartes de crédit renouvelables ne font pas le calcul. Sachez que le taux pratiqué est très proche du taux d'usure, 17, 18, 19%. Le législateur a mis quelques limites à ces pratiques en obligeant la banque à transformer ses prêts en prêts à la consommation, au-delà d'un certain montant, avec un taux plus raisonnable, mais malgré tout encore élevé. Et puis, vient Internet et les publicités racoleuses. C'est le mini-crédit. Si, lors d'un prêt à la banque ou en magasin, on vous demande des informations censées vérifier que vous pourrez rembourser, le questionnaire en ligne sont sous votre responsabilité. La banque ne vérifiera rien. En 3 ou 4 clics, vous recevrez quasiment, en temps réel, le petit montant demandé, 100 ou 500 euros, en dépannage et sur une courte période. Et là, bizarrement, on ne parle plus de taux, mais de frais, qui s'élèvent à quelques euros. Mais 7 euros sur 3 mois pour 100 euros, cela fait un taux d'intérêt de 28% l'an. Et le montant de ces frais peut exploser. Ainsi, les frais demandés par le site CapShare pour une avance de 100 euros pendant un mois, libérés immédiatement, s'élèvent à 30 euros. Cela fait du, tenez bien, 2234% en taux annuel. Réfléchissez-y à deux fois avant de cliquer. Et n'oubliez pas, l'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr ou notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. Bonne semaine.
Une chronique que vous pourrez réécouter en podcast sur l'autreradio.fr, évidemment. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi, Emma. On participe à l'évolution du quartier férié à Laval.
La ville de Laval vous propose le mercredi 19 et jeudi 20 mai de vous balader et de participer à des ateliers d'échange pour vous faire découvrir les aménagements de l'éco-quartier férié et pour pouvoir donner votre avis sur l'évolution de ce quartier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche 16 mai, soit via le site de Laval, soit par téléphone au 06 70 87 53 51.
Et on sort nos CV car il y a des postes à pourvoir avec les champignons de loups légumes.
La nouvelle entreprise située à Landivy ouvrira ses portes en juin et a près de 130 postes à pourvoir tous en CDI. Parmi les postes disponibles, on retrouve des cueilleurs, des équipiers, des coursiers, mais aussi 5 chefs d'équipe. Le plan de recrutement est organisé avec Pôle emploi et une réunion d'information aura lieu le 17 mai à 17h dans la salle des fêtes de Landivy. Si vous êtes intéressé, l'inscription se fait obligatoirement par téléphone au 02 99 18 82 90.
Eh bien, merci beaucoup Emma, on a hâte d'être dans tous ces champignons. Et on vous le disait hier, ouverture de notre compte Instagram par la stagiaire Adélie. Coucou Adélie. Donc n'oubliez pas de nous suivre, de nous follow, comme disent les Jones, nom du compte L'Autre Radio. Ben, merci beaucoup Emma, c'est déjà la fin de notre émission.
Oui, merci Claire, merci tout le monde, et à lundi, du coup.
Et oui, c'est ça, à lundi, mais restez ici, car à suivre dans quelques minutes. À 19h, c'est Novorama, et à 21h, ça va groover avec la Terrence Jazz Hour. Et émission spéciale, 20 ans, après la loi Taubira, où en est-on ? Quel effet a eu cette loi fondatrice pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité ? Réponse ce vendredi à 12h15 avec Pop Media et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et nous, comme l'a dit Emma, on se retrouve ni demain ni vendredi, donc vous l'avez compris, mais lundi à 12h15, ça change pas. On vous souhaite une bonne journée et surtout un bon grand week-end de l'Ascension. À lundi et avec Marie.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est la JT du local.